La voix des jeunes.
Développer notre esprit critique et notre regard sur la société.
Favoriser notre capacité à communiquer efficacement.
À nous exprimer.
Mais aussi à écouter.
Comprendre les médias.
Prendre confiance en soi. Apprendre à gérer notre stress et nos émotions.
Partager nos opinions.
Savoir collaborer.
Tout en nous affirmant.
La voix des jeunes.
Le programme radiophonique d'Info RC.
Radio associative en milieu scolaire.
Bonjour,
nous sommes Loris,
Camille
et Elora,
les Wings.
Aujourd'hui, nous interviewons Lisa Gianarelli,
qui voyage dans les radios associatives de France à vélo.
Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Alors, bonjour, je m'appelle Lisa et donc je suis journaliste indépendante depuis pas longtemps. Et du coup, je me spécialise dans le podcast documentaire.
Quel est votre parcours à la fois personnel et professionnel ?
Donc, j'ai fait au début une licence en langues étrangères appliquées. Et j'ai découvert avec une option ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est ou pas.
Non.
Non.
Alors, l'économie sociale et solidaire, ça regroupe tout le secteur à but non lucratif. Ça ne veut pas dire qu'on ne gagne pas d'argent, ça veut dire qu'on ne cherche pas à faire du profit comme les entreprises. Et donc ça regroupe les associations, les mutuelles, les fondations et les coopératives. Et donc j'ai eu une option de cette matière et je me suis dit mais c'est génial en fait, c'est ça que je veux faire. Du coup je suis partie en master, donc en bac plus 5, en gestion de projet dans l'économie sociale et solidaire. Et après en cherchant du travail... J'ai trouvé du travail dans une radio associative, mais plutôt du côté gestion de projet. J'étais ce qu'on appelle chargée de projet, donc je devais... Il y avait un projet avec un centre socio-culturel, et c'est tout moi qui co-organisais ce projet. Je gérais les partenaires, les interviews, et tout ce qui va avec les rendez-vous, les papiers, etc. Mais finalement, ça s'est bien passé. Donc j'ai été coordinatrice de l'association, donc je faisais la même chose, mais pas au niveau d'un seul projet, mais au niveau de tous les projets de l'association. Et en fait, petit à petit, je me suis dit, mais c'est génial, en fait, j'adore faire de la radio, c'est super. Et j'ai eu envie de me spécialiser dans le documentaire, donc dans un format plus long et plus travaillé. Et donc, j'ai démissionné, je suis partie fin mai de mon travail en radio associative pour me lancer sur ce projet de Tour de France. Et donc, j'ai commencé le 18 août ce projet de Tour de France pour réaliser mon tout premier documentaire en tant qu'indépendante.
Quel est le nom de votre projet ?
Il s'appelle « Parce qu'autant podcaster jusqu'à la fin du monde ». Et j'ai d'ailleurs Instagram, Facebook, et etc. pour suivre le voyage. Et c'est « Parce qu'autant podcaster ».
Avez-vous un travail ou une profession en dehors du projet ?
Alors, pas en ce moment, en tout cas. Parce que vu que je suis en création d'activité, j'ai le maintien de l'allocation chômage. Donc en ce moment, c'est France Travail qui me paye en partie et j'ai aussi un financement de la région Grand Est pour faire ce projet.
Dans combien de radios êtes-vous allée depuis votre départ ?
Alors ici, c'est ma 12e radio. Et j'ai commencé il y a 7 semaines.
Ça fait beaucoup.
Ça fait pas mal déjà, ouais.
Vous devez être un petit peu fatiguée, non ?
Je commence un peu, mais j'ai prévu une pause la semaine du 20.
Tant mieux.
C'est bien de prendre des pauses.
Il faut.
C'est important. Comment se passe votre intégration et votre voyage dans les radios ? Qui faites-vous ?
Ça se passe super bien dans les radios. En général, les gens ils sont super accueillants, sont plutôt contents que je vienne parler d'eux. Parce que finalement, les radios, on parle énormément d'autres gens, mais on parle peu des radios. Donc ils sont contents que je sois là pour mettre aussi en valeur leur travail, montrer qu'ils sont importants aussi. Et dans ma démarche, c'est vraiment d'y passer quelques jours en immersion. Donc je vais dans les radios et je fais pas que des interviews, je regarde aussi ce qu'ils font. Je vais avec eux sur différentes activités, donc ça peut être des émissions en direct, ça peut être certaines fois où ils vont faire des reportages à l'extérieur, je les accompagne. Et puis des fois, quand tout le monde est sur l'ordinateur, moi aussi, je me mets sur mon ordinateur et je travaille à côté. Et je fais aussi des entretiens individuels avec différentes personnes dans les radios. Donc, ça peut être des bénévoles, des salariés. J'ai interviewé aussi des partenaires de certaines radios ou des gens qui étaient invités, qui venaient présenter un projet. Et je leur demandais pourquoi ils servaient de la radio pour communiquer.
Combien de personnes avez-vous déjà interviewé ?
Oula, alors là, je ne sais plus. Je pense que j'en interview à chaque fois au moins 3-4 par radio. Et le plus que j'ai interviewé dans une seule radio, c'était 13 personnes.
Oh my God.
Ça fait beaucoup trop. Mais, mais j'avais aussi des interviews plus courtes.
Oh my God, ça fait beaucoup.
Oui, mais parce qu'il y avait 8 salariés dans cette radio. Oh, c'était une grosse radio associative.
Et c'était quoi le nom de cette radio ?
RDIWA. C'est à Die, dans la Drôme.
En moyenne, combien de kilomètres parcourez-vous par jour ?
Par jour, ça dépend beaucoup de où est mon logement, parce que je suis financée un peu par la région Grand Est et un peu par France Travail, mais ça ne suffit pas pour payer des logements tous les soirs. Donc j'utilise des plateformes pour trouver des hébergements gratuits. Donc il y a Couchsurfing, Nomad Sister, etc. Mais comme c'est gratuit, c'est les gens qui veulent bien m'héberger. Donc quand je me dis, tiens, je vais aller voir cette radio, elle m'a dit, ok, je commence à chercher des hébergements autour. Et donc, des fois, je me trouve à 10-15 km de la radio. Donc aller-retour, je fais 20-30 km par jour à vélo. Mais des fois, je suis dans la même ville ou dans le même village que la radio. Donc là, je peux y aller à pied, je ne fais pas de vélo. Donc ça va beaucoup dépendre. Et puis, en fait, mon parcours, il est à vélo, mais il est aussi en train. Donc ça dépend aussi de où sont les gares. Par exemple, en Ardèche, je vais faire beaucoup de vélo parce qu'il n'y a pas de train. Mais il y a des régions où il y a beaucoup de trains. Donc des fois, j'ai juste 5 minutes ou 10 minutes à vélo, le temps de finir jusqu'à la radio. Et à vélo, par semaine, je suis entre 150 et 200 km à peu près. Et à peu près pareil en train.
Comment vivez-vous l'éloignement avec vos proches ?
Eh bien, ça va. On se parle beaucoup par les réseaux sociaux parce que je publie tous les jours sur le voyage. On se parle, je regarde leurs publications à eux, on s'appelle, on garde bien contact à distance aussi. Et puis, moi j'ai des amis, j'ai pas mal bougé pour mes études, donc j'ai des amis qui sont un peu partout en France. Et du coup, ça me permet aussi de revoir des amis que j'ai pas vus depuis longtemps.
D'où est venue l'idée de traverser la France à vélo pour rencontrer les radios associatives ?
Eh bien, comme j'expliquais, j'ai eu envie d'évoluer dans mon travail, d'aller vers le documentaire. Et à ce moment-là, j'habitais à Mulhouse. J'étais dans une radio qui s'appelle WNE, qui veut dire Warum nicht Experience, ça veut dire pourquoi pas tenter l'expérience en alsacien. Et j'en avais aussi un peu marre d'habiter à Mulhouse.
C'est où Mulhouse ?
Mulhouse, c'est en Alsace, c'est à côté de la frontière avec l'Allemagne. Mais c'était cool d'habiter à côté de la frontière, parce que du coup, on peut facilement aller en Allemagne. J'étais pas très loin de la Suisse aussi.
On peut aller à Europa Park.
Oui, c'est vrai, il y a Europa Park pas loin. Mais sauf que voilà, j'avais envie d'aller m'installer ailleurs, mais je savais pas trop où. Donc je me suis dit, je vais aller visiter des villes qui me plaisent, que j'ai envie de visiter. Je vais prendre le temps. Puis finalement, petit à petit, je pensais aussi aux documentaires. J'avais bien envie de faire quelque chose sur les radios associatives parce que c'est un milieu que j'ai découvert un peu sur le tas et que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. J'avais aussi envie de découvrir comment ça se passait ailleurs, comment elle fonctionne ailleurs parce que moi, j'étais dans une web radio, donc on n'avait pas de FM. J'avais aussi envie de découvrir le côté comment on fait avec de la FM. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas lier les deux ? Parce qu'en fait, il y a plus de 700 radios associatives en France. Donc, j'étais sûre d'en trouver partout, de pouvoir visiter toutes les villes que je voulais. Et en même temps, de pouvoir découvrir comment ça se passe ailleurs et de pouvoir aussi valoriser le travail des radios à travers toute la France.
Et combien de temps ce voyage va-t-il durer ?
Alors, je suis partie le 18 août depuis Chamonix. Et je vais continuer jusqu'à la fête de la radio en juin. Donc ça sera quasiment un an. Et donc de Chamonix, je suis redescendue en Isère, vers Grenoble. Et puis je suis redescendue jusqu'à dans les Alpes de Haute-Provence. Et après j'ai bifurqué vers la Drôme et l'Ardèche.
Quel est l'objectif principal de votre épopée ?
L'objectif principal, c'est de créer un documentaire, une série documentaire thématique. Donc ça va être une dizaine d'épisodes. Pour l'instant, je n'ai pas encore de nombre fixe d'épisodes. Je me laisse dépasser si je vois qu'il y a besoin. Et donc ça va partir de l'histoire des radios associatives, depuis les radios pirates. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire un peu depuis les radios pirates, vous.
Non.
Vous savez ce que c'est une radio pirate ?
Non. Ça ne dit rien.
Ouais. Mais en fait, avant 1981, on n'avait pas le droit d'émettre sur les ondes. Parce que c'était que l'État qui avait le droit. Et quelques radios que l'État avait autorisées. Et donc, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec ça et qui ont mis leurs propres émetteurs pour émettre sur les ondes. Et sauf que c'était complètement illégal. Donc, ils devaient se cacher, ils devaient cacher les émetteurs. Moi, c'est des gens qui m'ont raconté qu'ils allaient sur les toits de Paris pour mettre des antennes et qu'ils devaient partir vite en courant dès qu'il y avait la police. Et finalement, il y en avait de plus en plus des radios pirates, il y en avait beaucoup. Et à un moment, l'État, il s'est dit, non mais là, peut-être qu'il vaut mieux réguler ça et autoriser. Donc après, on a eu le droit d'émettre et de demander des fréquences, comme aujourd'hui. Et donc, c'est beaucoup des associations qui ont repris ces radios pirates. Donc moi, je m'intéresse à toute cette histoire, comment ça a débuté, les radios associatives, d'où elles viennent. Et puis, je vais jusqu'à aujourd'hui, les nouvelles radios qui se sont créées, pourquoi, comment, quelles sont leurs activités aujourd'hui, comment elles fonctionnent, qui y travaille, qui y fait du bénévolat. Et puis après, je vais aller plutôt sur l'apport sur le territoire. Donc, qu'est-ce que ça apporte sur un territoire d'avoir une radio locale? Et puis aussi sur la création de l'information. Donc, dans les radios associatives, on dit qu'on crée de l'information libre et indépendante, donc qui ne dépendent pas forcément de personnes qui vont payer comme... Je ne sais pas si vous savez, mais il y a plein de médias qui appartiennent à des milliardaires. Et donc, dans ces médias, par exemple, on ne va peut-être pas trop critiquer ce milliardaire. Alors que dans les radios associatives, on peut dire tout ce qu'on veut, ou presque, sauf si c'est illégal, évidemment.
Et du coup, vous allez faire des épisodes et vous allez les publier sur quoi ?
Alors, je propose à toutes les radios que je rencontre de rediffuser mes podcasts. Donc, ça va être des épisodes d'un peu moins d'une heure pour que ça rentre dans le créneau des radios. Et moi, j'ai aussi une plateforme d'hébergement de podcasts qui s'appelle Podcastic. Mais en fait, là, c'est une plateforme où je peux mettre mes podcasts. Et après, ils sont diffusés automatiquement sur toutes les grosses plateformes d'écoute. Donc, Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon, etc.
Avez-vous un itinéraire défini ou improvisez-vous au fil des rencontres ?
Alors, c'est un peu moitié-moitié. J'ai mon itinéraire dans les grandes lignes. Mais après, je n'ai pas encore contacté toutes les radios, donc je me laisse aussi l'opportunité de pouvoir changer un petit peu l'itinéraire ou aussi de pouvoir me faire conseiller aussi certaines radios, parce que moi, je regarde sur Internet pour me renseigner sur quelles radios existent. Mais des fois, quand je rencontre une radio, ils me disent « Ah, il faut absolument aller voir cette radio-là dans cette ville, vas-y », alors que je n'avais pas forcément prévu d'y aller. Donc je trouve que c'est important de pouvoir se laisser un petit peu de marge pour pouvoir rencontrer aussi des personnes qui sont particulièrement intéressantes. Donc mon parcours, il a commencé à Chamonix, comme je disais. Là, en ce moment, on est en Ardèche. Je reste encore 2 semaines en Ardèche. Et après, je vais aller à Lyon. Et après, ça devient du grand n'importe quoi. Parce que je vais suivre aussi les événements autour du podcast et de la radio en France. Et donc, ils ne sont pas forcément tous les uns à côté des autres. Donc, je vais aussi... il n'est pas très linéaire, comme Tour de France, ce Tour de France. Je vais, en novembre, je vais à Castres pour un festival de podcast qui s'appelle Podcastre, très original. Et après, comme ce sera l'hiver, je me suis dit, tiens, moi, je vais faire le long de la Méditerranée l'hiver parce que je suis très frileuse. Donc, je vais rester dans le sud et que mes parents habitent dans le Var. Donc, de novembre jusqu'à Noël, je vais faire le long de la Méditerranée jusque vers Toulon pour passer Noël avec ma famille. Et après, je repartirai pour traverser complètement la France parce qu'il y a le plus gros festival de radio de France qui est à Brest, en Bretagne. Donc moi, je serai dans le sud-est et je vais aller dans le nord-ouest pour fin janvier pour voir ce festival. Et après, je vais rester un peu dans l'ouest, donc un peu en Bretagne, redescendre un peu vers le sud. Ensuite, il y a aussi un festival de podcast à Paris. Donc, je vais remonter à Paris, remonter vers le nord de la France pour aller à Rouen, Lille. Et je vais finir normalement en Alsace, là où j'ai travaillé.
Pourquoi avoir choisi de vous concentrer sur les radios associatives et non les radios plus populaires ?
Déjà, je trouve qu'on les connaît moins, donc je trouvais ça important d'en parler plus. Et c'est un modèle particulier, les radios associatives, qui m'intéresse plus que les radios qu'on appelle des radios commerciales. Déjà parce que ça a un fonctionnement démocratique. Donc toutes les personnes qui prennent part à la radio peuvent aussi participer à décider qu'est-ce qu'on y fait dans cette radio. On peut proposer des nouvelles émissions, on peut aussi participer à définir l'orientation de la radio, la ligne éditoriale. De quoi on parle, de quoi on parle pas. Et ça, je trouve ça important que les personnes qui écoutent ou qui participent directement à la radio puissent décider finalement ce qu'elles ont envie d'écouter, d'y écouter et d'y faire. Je trouve aussi que ça crée beaucoup de liens sociaux, plus que les radios commerciales. Parce que justement, c'est des bénévoles qui peuvent venir proposer des émissions. C'est des élèves comme vous qui peuvent venir passer des heures de perm ou des ateliers radio. Et donc, ça permet aussi de rencontrer du monde, d'échanger, d'être en contact et de sortir de l'isolement pour certaines personnes. Par exemple, j'étais allée dans une radio à Grenoble, enfin juste à côté de Grenoble, à Fontaine, qui était plutôt une radio destinée aux personnes âgées. Les personnes âgées, elles sont souvent un peu seules, donc ça leur permettait d'appeler ou de venir à la radio, de raconter aussi leur parcours, parce que les personnes âgées, elles ont souvent plein de choses à raconter super intéressantes. Donc voilà, c'est principalement pour ça que j'ai eu envie de me concentrer sur les radios associatives.
Avez-vous constaté des points communs entre les différentes radios que vous avez visitées ? Des différences marquantes ?
Oui. Alors, le point commun déjà, c'est que c'est toutes des radios associatives, donc avec un fonctionnement démocratique, qui sont toutes financées par des financements publics, mais aussi par des prestations. Ça peut être des ateliers d'éducation aux médias, ça peut être de la couverture d'événements, etc. Je trouve que dans les radios, toutes celles où je suis allée, en tout cas, il y avait quand même une ambiance plutôt cool au travail. C'était pas comme dans une grosse entreprise où on va pointer. Ça laisse aussi de la place aux personnes pour s'exprimer, pour échanger et pour vraiment travailler en équipe. Et ça, je trouvais ça vraiment génial, ce rapport au travail dans les radios associatives. Après, le point plus négatif, c'est que personne n'est très très bien payé dans ces radios associatives. Par contre, c'est pas l'endroit où on va devenir riche. Mais finalement, ça laisse la place aux passionnés, on va dire. Et il y a plein de différences aussi entre ces radios. Même si elles ont toutes le même statut, elles fonctionnent pas forcément pareil. Par exemple, entre les radios urbaines, donc qui sont en ville, et les radios qui sont plutôt dans les campagnes, ça va être très différent. Les radios en ville, comme il va en avoir plusieurs, elles sont beaucoup plus spécialisées sur un seul sujet. Par exemple, à Grenoble, il y avait une radio un peu généraliste, mais il y avait une radio qui était vraiment focalisée sur tout ce qui est environnement, développement durable. Il y en avait une autre qui était focalisée sur parler positivement des quartiers prioritaires, mettre en avant aussi la culture populaire. Et donc, en ville, elles vont être un peu plus spécialisées. Alors qu'à la campagne, elles sont plus généralistes parce qu'en général, il va en avoir qu'une seule. Et ça permet aussi à tout le monde de pouvoir venir s'exprimer dans ces radios. Donc en ville, on va avoir une offre plus large. Et à la campagne, c'est plus généraliste pour que tout le monde puisse venir.
Mais juste, c'est quoi des quartiers prioritaires ?
Alors les quartiers, ça s'appelle des quartiers prioritaires de la politique de la ville, de son nom complet. Et en fait, c'est des quartiers où il y a beaucoup de pauvreté. Et où du coup, l'État mais plus de moyens pour pouvoir aider les personnes qui y habitent à sortir de la pauvreté.
Avez-vous une anecdote marquante ou drôle lors de vos rencontres avec une radio associative ?
Marrante, c'est que j'ai été dans une radio associative à Fort-Calquier, dans les Alpes de Haute-Provence. Et c'était une communauté anarchiste autogérée qui avait créé cette radio. Donc c'était très différent des autres radios. Et j'ai été logée dans la communauté, donc où ils vivent quasiment en autonomie. Ils sont tous, ils vivent dans des grandes maisons tous ensemble, donc c'est très collectif. J'avais jamais vécu comme ça. C'était intéressant à découvrir. Après, c'est pas forcément le mode de vie que je choisirais moi pour la suite, mais c'était, du coup, c'était vraiment une expérience en soi. Il y avait la radio plus le mode de vie autogéré.
Vous étiez déjà arrivé des petits imprévus ou un accident ?
Alors, pas d'accident, j'espère que ça n'arrivera pas sur le trajet. Des imprévus, oui, plein. Je pense que quand on voyage, il y a toujours des imprévus. Déjà, rien que pour partir, donc je suis partie de chez mes parents parce que j'étais en vacances au moment, juste avant de partir. Donc j'étais dans le Var, tout au sud-est de la France, et je devais aller à Chamonix, donc dans les Alpes. Je savais qu'il y avait des trains. Mais même sur la SNCF, on ne trouvait pas les trains. Donc, j'ai dû prendre la carte du réseau ferroviaire français, chercher mon itinéraire pour prendre de train par train mes billets de train. Donc, ouais, des choses comme ça par rapport au train. J'ai aussi eu des fois un imprévu, un logement annulé. Je me dis, mince, ce soir, où est-ce que je vais dormir ? Faut vite, vite chercher un logement. Et finalement, j'ai dû payer qu'une seule nuit de tout mon trajet. Ou y a aussi des radios qui ne m'ont pas répondu. Parce que j'envoie des mails à plein de radios différentes. Et il y en a qui ne m'ont pas répondu. Mais quand je trouve que c'est très, très intéressant, j'essaie quand même de les joindre. Soit par téléphone. Et quand ils ne me répondent encore pas par téléphone, si je ne suis pas loin, j'essaie d'y passer. Et donc, à un moment, j'avais prévu d'aller voir une radio et j'arrive devant et en fait, c'était complètement fermé. C'était une radio fantôme qui continuait d'émettre, mais parce que c'est une autre radio qui avait repris la fréquence de cette radio. Des fois, ça peut être sportif.
Qu'est-ce que ça change de faire ce périple en vélo ou en train ?
Eh bien, je pense que c'est un projet... Je le conçois vraiment comme un projet en soi, ce voyage. C'est pas que faire du documentaire. C'est aussi montrer qu'on peut voyager autrement. D'une part, c'est beaucoup moins cher. Parce que le vélo... Bon, j'ai un vélo électrique, hein, parce que je ne suis pas une très grande sportive. Mais bon, une fois qu'on a acheté le vélo, le recharger avec de l'électricité, ça ne coûte pas très très cher. C'est un moyen économique de voyager. Le train, sur des petites distances, ce n'est pas hyper cher non plus. Donc je m'en sors pour pas trop cher à voyager en train et à vélo. Et moi, j'aime bien le vélo. Et j'ai aussi décidé de ne plus avoir de voiture, parce que j'ai donné ma voiture à ma sœur, et je me suis dit que j'avais plus envie de reprendre de voiture, vu qu'en général j'habite en ville, j'ai pas vraiment besoin. Et en fait, je fais beaucoup de vélo, donc c'était aussi une façon de tester la vie sans voiture. Après, je ferais pas ça tout le temps. Alors je pense que là, je peux me le permettre parce que ça s'inscrit aussi dans le projet. Donc je prends le temps de faire ces trajets à vélo, de faire parfois... hier, depuis Montélimar, j'ai mis 3 heures pour venir jusqu'à vous. Et je pense que quand on a un travail en 35 heures, voire plus, on ne peut pas forcément se permettre de faire 3 heures de vélo en fin de journée pour aller travailler. Donc oui, je pense que... C'est quelque chose que j'ai envie de continuer de faire, de vivre sans voiture, mais plutôt en habitant en ville, et puis louer une voiture de temps en temps quand j'en ai besoin pour partir en week-end à la campagne.
Comment vous organisez-vous au quotidien ?
J'essaye de prévoir à peu près 2 semaines à l'avance, 2-3 semaines à l'avance. J'essaye de caler vraiment mes semaines pour avoir une vision à peu près, on va dire, sur un petit mois. Dans le quotidien, après, une fois que j'ai les hébergements, que j'ai les radios que je veux voir... les repas, ça dépend un peu. Des fois, je mange chez les gens chez qui je suis logée. Je mange avec eux. Des fois, je m'achète des choses un peu... c'est toujours assez simple à cuisiner ou un sandwich le midi. Ça change un peu en fonction de ce qu'il y a autour de moi. Et après, à vélo, j'ai donc un sac à dos avec tout mon matériel d'enregistrement que je transporte tout le temps avec moi. Et j'ai des sacoches avec tout ce qui est vêtements, sacs de couchage, etc. Donc, finalement, je m'en sors assez bien dans le quotidien, ça va. Et j'essaye de poser mes affaires. Par exemple, là, je suis venue juste avec un sac à dos parce que j'ai un ami qui habite dans le centre Ardèche. Du coup, j'ai laissé mes sacoches là-bas. J'ai juste pris des vêtements pour 3 jours. Et ça me fait moins de poids pour le vélo, c'est pas mal. Donc, dès que je peux poser mes affaires, j'en profite.
Est-ce difficile physiquement et mentalement ?
mentalement, franchement, ça va. Je suis super contente de faire ce voyage. Je trouve qu'à vélo, c'est vraiment un truc qui me plaît beaucoup. On verra cet hiver si je dis la même chose. Avec plein de couches de vêtements, on verra. Mais pour l'instant, j'adore. Après, physiquement, je suis partie en n'étant pas du tout sportive. Et même vélo électrique, c'est fatigant quand même. En plus, je suis partie dans les Alpes au tout début. C'était pas le plus facile pour commencer. Donc des fois, c'est un peu dur. Je crois que le pire que j'ai fait, c'était 30 km à vélo. Mais c'était quasiment que de la montée. Je suis arrivée complètement épuisée. Et là, je commence à avoir un peu un rythme de croisière, on va dire. J'ai pris un peu des muscles et du coup, ça va mieux.
Avez-vous fait de belles rencontres sur la route ou en dehors des radios ?
Oui, aussi. Parce que comme je loge chez l'habitant, j'ai l'occasion de rencontrer du monde partout, finalement. Et en fait, je trouve que les personnes qui sont ouvertes pour accueillir des inconnus chez elles, eh ben, souvent, c'est des personnes qui ont aussi voyagé, qui savent ce que c'est d'être sur la route. Et donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'histoires de voyages. Par exemple, il y a 2 semaines, j'étais chez une dame qui était partie en couchsurfing. Donc, c'est que du logement chez l'habitant aussi, gratuitement. Elle était partie en Polynésie française avec son fils de 6 ans. Et elle est partie 4 mois comme ça avec son fils. Donc c'est souvent des super belles histoires que j'ai.
Y a-t-il un message ou une cause que vous souhaitez porter à travers cette aventure ?
Écologique
ou sportive ?
Eh ben, alors il y a le côté écologique, oui, par la mobilité douce. Montrer que, j'ai parlé des prix, mais c'est vrai que ça y a aussi un bilan carbone beaucoup plus faible de voyager en train, à vélo. Montrer que c'est aussi... possible sans être un énorme sportif, parce que je ne le suis pas du tout. Et moi, ce que j'ai très envie de porter, c'est aussi l'importance de conserver ces médias libres, indépendants, qui peuvent produire de l'information indépendamment d'idéologies de milliardaires ou de l'État, qui puissent aller un peu proposer une information différente et donner la parole à toutes les personnes qui ont envie de la prendre et de se faire entendre sur le territoire. Donc ça va aussi un peu à l'encontre de la concentration des médias aux mains de quelques-uns, de pouvoir montrer tous ces médias indépendants qui peuvent produire de l'information libre. Je trouve que c'est hyper important, surtout en ce moment.
Avez-vous des partenaires ou des soutiens dans ce projet ?
Alors, j'avais un financement de la région Grand Est, qui est donc ce qu'on appelle un partenaire financier. Mais sinon, là, je suis donc journaliste indépendante, mais en ce moment, je travaille avec une association. Donc c'est l'association Parce qu'autant, ça s'appelle, et le slogan c'est Parce qu'autant vivre heureux. Donc heureux, c'est la contraction de heureux et heureuse. Jusqu'à la fin du monde. Et donc cette association, elle a pour but de donner les clés aux personnes qu'on vit pour devenir des acteurs et des actrices du monde de demain, pour aller vers une société plus juste, équitable, sociale, etc. Et donc il y a un pôle audiovisuel où je fais ce documentaire. Et sinon, c'est aussi toutes les radios que je rencontre qui sont partenaires du projet et qui vont diffuser les podcasts que je vais proposer.
Quels sont vos projets une fois cette traversée terminée ?
Donc, une fois que j'aurai fini de voyager en juin, j'aurai tout un moment de post-production, donc terminer les montages, commencer à diffuser les podcasts. Et donc la sortie du podcast est prévue en fin 2026, j'ai pas encore de date exacte. J'aimerais bien à l'automne, mais ce sera peut-être un peu plus tard. Et après, je vais continuer en tant qu'indépendante. Donc, je crée une auto-entreprise et je pourrais donc proposer à ce qu'on appelle des maisons de production, donc des plateformes qui hébergent des podcasts. Par exemple, il y a Arte Radio, il y a Radio France, on a quoi, Binge Audio, des plateformes comme ça. Elles payent pour des podcasts. Et en fait, elles achètent des podcasts. Et donc, je pourrais vendre des podcasts à des maisons de production pour gagner ma vie, proposer encore aux radios que j'ai rencontrées de continuer à diffuser les documentaires que je ferai, parce qu'il y a ce qu'on appelle les droits d'auteur. Donc toutes les radios qui vont diffuser, elles payent un gros organisme qui redistribue les droits d'auteur à toutes les personnes qu'elles ont diffusées. Donc quand elles vont diffuser mon podcast, c'est pas énormément d'argent, mais j'aurai un peu des droits d'auteur. Et puis après, dans la culture, il faut diversifier aussi ses activités pour pouvoir gagner assez d'argent. Donc je vais proposer aussi de la couverture d'événements, des enregistrements de voix off. Je pourrais faire aussi de l'éducation aux médias, de la formation professionnelle autour du podcast documentaire, etc. Donc je vais un peu diversifier mes activités après ce projet pour pouvoir en vivre une fois que France Travail ne me financera plus.
Souhaitez-vous continuer à travailler avec les radios associatives d'une autre manière ?
Oui, complètement. C'est vraiment un monde que j'adore. Après, je pense que j'aime bien être indépendante. Ça me correspond bien comme statut. Mais j'ai très envie de travailler en partenariat avec des radios associatives. Parce que je trouve que c'est vraiment des actrices de la vie sociale incroyable. Donc, qu'elles diffusent des documentaires ou que je continue à faire des documentaires en coproduction avec des radios associatives, ça serait l'idéal.
Y a-t-il un mot qui résume le mieux votre aventure ?
L'épanouissement, je crois que je me sens très très épanouie dans ce projet. Donc ça c'est mon côté personnel. Mais sinon, globalement, je pense que si c'est en un mot, ça serait vraiment... C'est trois mots du coup, mais information libre et indépendante, je pense que ça va vraiment aller là-dessus.
Non mentir les bibis périmés.
Nous arrivons malheureusement à la fin de cette interview. Mais
avez-vous quelque chose à ajouter ?
Eh bien, que vous pouvez me suivre, suivre le voyage sur les réseaux sociaux. J'ai aussi une newsletter et on peut trouver tout ça sur Parce qu'autant podcasté.
Nous arrivons bien évidemment par la question traditionnelle.
Quelle opinion
avez-vous envers les radios
situées au sein d'un établissement scolaire tel Info RC ?
Eh bien, c'est la toute première fois que je rencontre une radio scolaire. C'est la toute première fois aussi que j'arrive... Enfin là, c'est la première matinée, donc je n'ai pas encore pu trop découvrir comment ça fonctionne exactement. Mais je trouve que c'est une super initiative de donner aussi la parole à des collégiens, des collégiennes, parce qu'eux aussi, ils ont plein de trucs à dire.
Nous vous remercions du fond du cœur d'avoir accepté notre requête d'invitation.
Et on vous dit au revoir et à bientôt avec les Wings ou BBL. Woo!
C'était
La Voix des Jeunes,
un programme radiophonique réalisé en partenariat avec les établissements scolaires d'Aubenas et de sa région.